Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un club mythique du rugby français, l'AS Béziers. 11 titres de champion de France. Ce club a dominé le rugby français des années 1970, comme l'avait fait auparavant Lourdes dans la décennie antérieure. De 1971 à 1984, Béziers a été sacré 10 fois champion de France. Au cours des années 1971-1978, le club était quasiment invincible. Comment une équipe, issue d'une ville moyenne, plongée dans la grande crise viticole des années 1950, a-t-elle pu s'extirper d'un contexte économique et social défavorable pour devenir pendant plus d'une décennie la référence nationale, voire mondiale, de son sport? La réponse tient en deux mots. La recherche et l'innovation. Le tout porté par des joueurs d'exception. Le club est fondé en 1911, mais le Grand Béziers des années 1970 prend naissance dans les années 1960. Victoire sur Dax en 1971. Premier titre, 6-3, en raison de l'audace prodigieuse de son demi de mêlée et capitaine Pierre Danos. À quelques minutes de la fin, Danos, dans un angle impossible depuis le bord de la ligne de touche, tente un drop victorieux. Néanmoins, Béziers enregistre 3 défaites en finale au cours de cette période. En 1960, défaite contre Lourdes, 14-11. Béziers avait bien infligé au cours de la saison la première défaite à domicile de Lourdes depuis 1948. Il fait figure de favori, mais au final, les Biterrois fatigués s'inclinent face à des avants lourdés plus lourds et plus grands. En 1962, défaite contre Agen, 14-11. Battu sur le fil, sur un essai de l'ailier agenais Serge Méric, dont 50 ans plus tard on disserte toujours sur le fait ou non qu'il ait mis un pied en touche en plongeant dans l'embut. En 1964, enfin, défaite contre Pau, 14-0. Les joueurs de Pau surclassent les favoris biterrois dans le rythme et l'engagement. Les lignes arrières biterroises sont privées de ballon. Béziers a retenu de ses défaites, alors qu'il était à chaque fois en position de favori. En 1971, il y a de l'électricité dans l'air en ce 16 mai à Bordeaux, au Parc Lescure. Roger Coudert dit en direct « ça devient un peu trop sec des deux côtés ». Avec une fracture des côtes à la 17e minute, André Herrero continue le combat. Toulon maîtrise les débats à l'image de son capitaine Christian Carrère, l'homme du Grand Chelem de 1968. Mais un essai de Séguier, suite à une relance de Cantoni, donne à Béziers le droit de disputer les prolongations. Le vent a donc tourné. Une équipe est née, celle de ses juniors champions de France 3 ans auparavant, et entraîné par Raoul Barrière, le sorcier de Soclière, du nom du stade sur les bords de l'Orbe. Score final 15-9. C'est le 2e titre. En 1972, Béziers s'impose plus difficilement que prévu face à Brive. 3e titre, 9-0. Les avant-brivistes avaient bousculé les avant-biterrois, mais Daniel Boulpiquant, 3e ligne et buteur corrézien, aura raté en tout 6 tentatives de pénalité. Il faut de la chance, et Béziers en aura encore en remportant en 1974 la finale contre le voisin Narbonnais. 16-14, c'est le 4e titre, une grande finale. Sur le dernier lancé en touche, le 2e ligne Narbonnais, Claude Spanghero, ne se méfie pas du jeune 2e ligne de Béziers, Michel Palmier, qui lui marche sur les pieds et détourne le ballon vers Astre, qui transmet à Cabrol pour le drop victorieux. En 1975, un air de déjà-vu, avec une nouvelle victoire de Béziers sur Brive, 13-12, 5e titre. Le buteur briviste, Jean-Pierre Puydebois, va rater 5 pénalités sur 6 tentées en première période. La domination est pourtant briviste, et un 3e ligne de 21 ans, Jean-Luc Joinel, fait forte impression. mais Béziers est doté d'une force et d'une confiance collective. Séguier, un grand bonhomme des finales de Béziers, marque un essai. Le destin du match est scellé. En 1976, Béziers, pourtant grand favori, se fait surprendre par Agen, qui l'emporte 13-10 après prolongation. Mais en 1977, Béziers reprend sa marche en avant. Victoire sur l'USAP, Perpignan, 12-4, sixième titre. À la manœuvre, le duo Astre-Cabrol balaie tout suspense. En 1978, cette finale au goût de feu d'artifice, 31-9 face à l'AS Montferrand, 5 essais, 7e titre, marque aussi la fin d'une époque. Celle de Richard Astre et celle de l'entraîneur Raoul Barrière, le sorcier de Soclière, qui tire leur révérence. En 1980, c'est Olivier Seyssé qui a pris la succession de Raoul Barrière. Mené à la pause de 2 essais, Toulouse tente de refaire son retard. Il en a la possibilité avec Harris et Gabernet en fin de match. Mais la chance toulousaine est passée. C'est le 8e titre de Béziers qui l'emporte 10-6. En 1981, Béziers l'emporte face à Bagnères, 22-13, 9e titre. Les lignes arrières bagnéraises donnèrent du fil à retordre à Béziers, mais un essai de Fabre en fin de match scelle la victoire bitéroise. En 1983, c'est le 10e titre, le 9e titre en 12 ans et une victoire face à Nice, composée d'anciens de Toulon, 14-6. Quand Escande marque l'essai de la victoire, la pelouse est envahie et le match est interrompu plusieurs minutes. Enfin, en 1984, Béziers prend sa revanche de 1976 contre Agen. Score final 21-21 après prolongation. Égalité parfaite. Il faudra donc en venir à la séance de tir au but par série de 3. Et à ce jeu, Béziers l'emporte, 11e et dernier titre de champion. Béziers, c'est avant tout Raoul Barrière, l'entraîneur de la grande époque. Il est né le 3 mars 1928 à Béziers. Il a porté les couleurs d'Aurillac de 1952 à 1954. Il a été pilier à Béziers de 1954 à 1963. En tant que professeur d'éducation physique à Henri IV à Béziers, il a formé toute une génération dorée des années 1970 qui s'est retrouvée en équipe de France. Martin, Seyssé, Vaquerin, Astre, Cantoni, Lubrano, Estève, Bonomo. Sa fin de carrière d'entraîneur se déroule à Narbonne. Il y retrouve aussi son entraîneur quand il jouait à Béziers, Raymond Barthès. Il est décédé en 2019. Richard Astre, dit le petit Mozart du rugby, est né le 28 août 1948 à Toulouse. Son père était René Astre, troisième ligne du Stade toulousain. Il est formé au TOEC en même temps que Jacques Cantoni. À 17 ans, il devint capitaine de l'équipe de France junior. Il est repéré par Raoul Barrière. Et en 1971, c'est le plus jeune capitaine à avoir remporté un championnat de France. En équipe de France, il était en concurrence avec Jacques Fourou pour le poste de demi de mêlée. Le Grand Béziers était un collectif, mais chaque joueur avait sa particularité, de Olivier Seyssé aux frères Vaquerin, Armand et Élie, en passant par Pierre Lacan, parti trop vite à 28 ans, Henri Cabrol, Alain Estève. Olivier Seyssé est né le 7 juin 1949 à Poujols-sur-Orbe. Il a occupé le poste de troisième ligne aile à l'AS Bitéroise, son club de toujours, durant la période faste de celui-ci jusqu'en 1980. Avec ce club, il est champion de France à 6 reprises et entraîneur lors du titre de 1980. En 1999, il devient l'adjoint du nouveau directeur technique national, Pierre Villepreux, en charge spécifiquement de la formation. En 2000, il s'engage avec l'USAP Perpignan, où pendant 4 ans, il va imposer sa forte personnalité et amener l'USAP pour la première fois en finale de la Coupe d'Europe, 2003, défaite contre le Stade toulousain, puis en finale du championnat de France, 2004, défaite contre le Stade français. Mais malgré ces résultats exceptionnels, les dirigeants catalans, impatients et déçus de ne pas avoir franchi la dernière marche contre Paris, alors que l'USAP attend le bouclier de Brennus depuis 1955, le Limoges peu après la finale. Quelques mois plus tard, Seyssé répond aux sollicitations de l'AS Montferrandaise, alors très mal parti en championnat, dont il devient l'entraîneur conseil. Il redresse la situation et parvient à amener la SM à une place en Coupe d'Europe. Mais moins d'un an après son arrivée, les allers-retours depuis son domicile de Murviel-les-Béziers étant longs et fatigants, il quitte son poste et redevient, en 2005, l'entraîneur de l'AS Bitéroise. mais en Pro D2. L'AS Béziers, des années sans titre, a produit aussi des joueurs emblématiques, comme Didier Cambera-Béro, Alain Carminati, Yannick Nyanga, Dimitri Zazarski. Un All Black y a posé ses valises. Andrew Mertens, 70 sélections avec la Nouvelle-Zélande. Actuellement, Béziers est pensionnaire de Pro D2. Le club a même été relégué en Fédéral 1, 3e division française, son plus bas niveau jamais atteint en 2009. Il remonte à Pro D2 en 2011 à la faveur d'une victoire sur Tyros, au bénéfice du nombre d'essais sur l'ensemble des matchs aller-retour en demi-finale. Béziers a fait les titres des journaux au moment de son possible rachat début mai 2020 par un investisseur émirati. Ce projet était porté par Christophe Dominici, qui décédera en fin d'année 2020 à l'âge de 48 ans. Après une série de rebondissements, la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion, la DNACG, juge que les garanties financières ne sont pas réunies pour mener ce rachat et le projet est abandonné, laissant le club sur le point de déposer une relégation administrative. Située sur les rives de l'Orbe, Béziers est la deuxième commune la plus peuplée de l'Hérault après Montpellier avec 78 000 habitants et son agglomération compte 95 000 habitants. Retour sur des histoires mouvementées. Le 14 janvier 1208, le pape Innocent III décide de lancer une croisade contre les cathares. Autour de Simon de Montfort, fraîchement revenu de la Terre Sainte, la croisade est menée par de grands barons du nord de la France. Le vicomte de Béziers, Raymond Roger de Trencavel, galvanise les Biterrois derrière de puissants remparts et entreprend de résister aux assauts des croisés du nord venus châtier les seigneurs soutenant les cathares. Lors de l'assaut du 22 juillet 1209, plusieurs milliers d'habitants de Béziers sont passés par les armes ou périssent dans le feu. Le massacre est illustré par la formule terrible « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », restée gravée dans les mémoires. À la fin du XIXe siècle, le Haut-Languedoc et plus particulièrement le Biterrois et Béziers s'enrichissent rapidement. De grandes fortunes se forment. De grands propriétaires terriens issus de l'industrie, de la finance et des professions libérales possèdent d'immenses domaines de plusieurs dizaines d'hectares et construisent des châteaux pinardiers. Et pour faire face à la concurrence étrangère, des vins trafiqués apparaissent sur le marché. Les fraudeurs dénoncés restent impunis. En 1892, les viticulteurs du Midi réclament la suppression du sucrage officiel et le rétablissement des droits de douane. Le 12 mai 1907, le rassemblement de Béziers pour défendre la viticulture méridionale voit 150 000 manifestants envahir les allées Paul Riquet. Les slogans des banderoles affirment « La victoire ou la mort, assez de paroles des actes, mort aux fraudeurs, du pain ou la mort, vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Les manifestants, qui venaient de plus de 200 communes, ont été rejoints par de nombreux employés et commerçants biterrois. La manifestation est clôturée par les discours prononcés sur la place de la Citadelle. Prennent la parole le cafetier et vigneron Marcelin Albert, qui lance un ultimatum au gouvernement en lui demandant de relever le cours du vin. L'homme politique Ernest Féroul, qui prône la grève de l'impôt, et le maire de Béziers, Émile Suchon, un proche de Clémenceau, qui prend position pour les viticulteurs en lutte. Le 16 mai, le conseil municipal de Béziers, de tendance radicale socialiste, démissionne. La pression de la rue continue. Le poste de police et la façade de la mairie sont incendiés. Alerté, Georges Clémenceau décide de contre-attaquer. Le 17e régiment d'infanterie, composé de réservistes et de conscrits du pays, est muté sur ses ordres de Béziers à Agde le 18 juin 1907. Le soir du 20 juin, apprenant la fusillade de Narbonne qui fera des morts, environ 500 soldats de la 6e compagnie du 17e régiment se mutinent, pillent l'armurerie et prennent la direction de Béziers. Ils parcourent une vingtaine de kilomètres en marche de nuit. Le 21 juin, en début de matinée, ils arrivent en ville. Accueillis chaleureusement par les Biterrois, ils fraternisent avec les manifestants, occupent les allées Paul Riquet et s'opposent pacifiquement aux forces armées en place. Les soldats s'installent alors sur les allées Paul Riquet, mettent crosse en l'air. La population leur offre vin et nourriture. Le Midi est au bord de l'insurrection. L'exemple du 17e régiment peut donner des idées similaires à d'autres régiments de la région. À Paris, la République tremble. Clémenceau doit faire face à un vote de défiance. Il joue son va-tout en intimant au commandement militaire de chasser les mutins dans la journée. Il y a négociation, et dans l'après-midi, après avoir obtenu la garantie qu'aucune sanction ne leur sera infligée, les soldats du 17e déposent les armes et se dirigent vers la gare sous bonne escorte et sans aucun incident majeur. Le 22 juin, par train, ils regagnent leur caserne à Agde. Clémenceau annonce la fin de la mutinerie et obtient la confiance au gouvernement par 327 voix contre 223. Le 23 juin, une loi est enfin votée qui réprime la chaptalisation massive des vins. Il n'y eut donc pas de sanctions pénales à la révolte du 17e. Cependant, durant la Première Guerre mondiale, poursuivis par leur réputation de déserteurs, ils furent nombreux à être envoyés en première ligne, notamment dans les assauts sanglants de 1914. C'est à la suite de ces événements que désormais les conscrits effectueront leur service militaire loin de chez eux. Le vin du Languedoc arrive massivement dans les tranchées de 1914-1918, comme si la guerre avait éteint la révolte populaire.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.